l'argent individuel.
Ouais, et qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton format?
J'écris et je suis simultanément, on va dire, théoricien. Mmh. Et comme je dis souvent, théoricien et pas philosophe. C'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui critiquent la vie quotidienne, qui essayent de déconstruire les systèmes préétablis et qui essayent de formuler une nouvelle critique du monde et en particulier une nouvelle critique des formes de représentation de ce monde. Mmh. Voilà. Un peu abstrait, mais c'est comme ça.
Moi, je trouve très intéressant, à partir de cette expérience que j'ai proposée dans la Conjal de Fribourg, d'avoir une réflexion avec toi, surtout pour qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, dans un moment où il y a pas mal de choses de la politiquement correcte, si quand on essaye de réfléchir sur le sujet de la négociation, par exemple, si ça c'est en forme d'être correct, ou comment est-ce que tu vois ça? Tu comprends la question?
Oui, oui, tout à fait. Ben, je pense que oui, c'est effectivement dans le politiquement correct. C'est-à-dire, il ne peut y avoir de négociation au sens où on l'entend que si on est dans une forme démocratique. Uh-huh. À partir du moment où on ne peut pas considérer que c'est une forme démocratique, mais plutôt une démocratie virtuelle, ce qu'on appelle la négociation, c'est plutôt la façon dont on fait accepter l'inacceptable à l'autre. Donc, une réflexion sur la négociation, c'est d'abord une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la négociation, qu'est-ce que ça représente. Et donc, plus généralement, pour bien poser la question de la négociation aujourd'hui, il faut bien poser la question de la représentation. Quand je dis représentation, c'est représentation artistique, mais aussi représentation politique. Là où il y a une faillite des systèmes de représentation, il est évident que la négociation n'est là que pour entériner cette faillite et colmater les brèches. Et prenons un exemple. Tu peux prendre un exemple tout de suite?
Oui, bien sûr.
Pour montrer ça. Hier, il se trouve que tout à fait par hasard, j'étais dans un bar, un restaurant qui s'appelle Lubu, qui est une sorte de café philosophique, où il y avait un débat. Mm-hmm. Là, j'étais avec un ami donc, qui a fait le film Attention, danger, travail, donc une critique violente du travail. Et les gens qui étaient là nous ont présenté un film de 15 minutes, avec toujours des sigles, l'ARAC, des choses comme ça. Et c'était pour expliquer comment on pouvait améliorer les conditions de vie dans le travail. Comment on pouvait améliorer les conditions de vie dans le travail. Donc en fait, comment on peut négocier avec les patrons de meilleures conditions de vie dans le travail. Et à aucun moment, on s'est posé la question de la servitude du travail et de ce que ça voulait dire. Donc la négociation, c'est un peu ça. C'est-à-dire où on peut contester le travail ou autre chose, où on commence à négocier en acceptant ce que l'ennemi va nous imposer. Et donc, dans cette idée de négociation, quand tu m'en as parlé, je trouvais qu'il y avait très précisément ça, c'est-à-dire qu'il y avait cette idée qu'à partir du moment où on ne peut plus contester la totalité du monde, il faut accepter à peu près tout et simplement faire des aménagements, c'est-à-dire des concessions. C'est une multitude de petites concessions. Donc je dirais que la négociation aujourd'hui, ce sont principalement des concessions. Alors si dans la vie quotidienne on peut faire des concessions, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on ne doit en faire aucune. Et c'est plutôt ça le sujet.
Oh, tu penses qu'est-ce qu'on peut négocier et qu'est-ce qu'on ne peut pas négocier, à ton avis?
Ce qu'on peut négocier, c'est par exemple...
Par exemple, nous maintenant on est ici, on a négocié de faire un rendez-vous, on est très habitué quotidiennement à négocier. Mais il y a des choses que normalement, à ton avis, on ne doit pas du tout négocier. Tu penses?
Oui, dans le domaine de la passion amoureuse, lorsqu'on est habité par une passion amoureuse, lorsqu'on est habité par ce qui est de l'ordre du sentiment, il est évident que toute relation à l'autre sous-entend un minimum de négociation. C'est-à-dire deux êtres sont inévitablement deux êtres qui sont parfois antinomiques, parfois contradictoire. Donc il y a tout un travail de relation qui passe par une négociation, mais qui touche, on va dire, les aspects de la vie quotidienne, c'est-à-dire le fait qu'on puisse vivre ensemble en étant très différents. Et d'autres choses aussi, c'est-à-dire avec un enfant, les heures de repas, des choses comme ça. Donc il y a une négociation qui n'en est pas une, simplement, c'est plutôt un art de vivre, on pourrait appeler un art de vivre. C'est un respect de l'autre, hein. C'est la vieille formule de Bakounine, la liberté des autres étant la mienne à l'infini. Donc il y a cette dimension-là dans ce qu'on appellera cette négociation librement consentie entre deux êtres, entre un groupe avec un autre groupe. Mais après, il y a un autre type de négociation qui touche là, on va dire, la structure générale de la société, c'est-à-dire la société fonctionne, celle que je conteste, fonctionne sur un modèle qui a dévalorisé l'individu, et on lui demande...
Imposé,
bien sûr. C'est-à-dire c'est un système qui impose un certain nombre de valeurs, qui sont la plupart du temps des valeurs économiques, des valeurs de dépossession de la vie, et puis derrière ça, il va y avoir tout un discours faussement humaniste, c'est-à-dire ceux qui détruisent pratiquement ce qui crée le lien social sont ceux qui, de façon permanente, essaient de nous dire à travers des fragments de négociations que ce lien social peut être constitué. C'est un peu comme TF1 quand il filme le tsunami. On est dans le même registre des émotions fabriquées, contrôlées, et bien évidemment, les gens sont subordonnés à ce type d'influence. Là où il y a, à mon avis, une pratique barbare, une pratique très barbare de prédateur, parce qu'effectivement, nous subissons l'attaque de prédateurs, ceux qui attaquent se targuent d'être des négociateurs, des humanistes, des penseurs et des gens qui visent au bien-être de la population. C'est les deux, pour moi, ce sont deux univers radicalement différents.
Comment est-ce que qu'est-ce que tu as pensé quand je t'expliquais mon projet de la maison de la négociation? Comment est-ce que tu l'as vu?
Au tout début, avec, comme toujours par rapport à une production artistique, une certaine suspicion. C'est-à-dire, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte là, un phénomène. Donc il y a toujours, tu as beau connaître la personne, tu ne sais pas exactement ce qu'on va te présenter. Et je trouvais ça, je trouvais que dans la formulation, il y avait quand même une part d'ambiguïté. Donc j'y allais avec un certain nombre de réserves. En plus, comme je te connaissais, je me dis, bon, il doit y avoir autre chose quand même. Ça ne peut pas simplement être l'apologie du modèle suisse. Quand je suis venu te voir, que tu m'as dit que tu allais me présenter ensuite le projet, qu'on a un peu navigué là sur l'écran de ton ordinateur et tu m'as montré le système, j'ai trouvé que c'était un système, ce qui m'a fasciné, c'est que c'était un système très pervers. Quoi. C'est-à-dire il y a une très grande perversion dans ce que tu as montré. Et à l'inverse, tu n'es pas quelqu'un qui apparaît au premier abord pervers. C'est-à-dire tu apparais au premier abord beaucoup plus humaniste, beaucoup plus attaché à une sorte de socialité, c'est-à-dire à une vérité des échanges humains, etc. Or, ton projet était assez radicalement pervers, tout aussi bien dans la fabrication d'un espace clos, avec cette espèce d'organisation intérieure où la couleur donne un sentiment d'irréalité. Bon, c'est pratiquement un épisode de Star Wars, ou de Star Trek, peu importe. On est vraiment dans un univers de science-fiction. Et à l'intérieur de ça, ensuite, le dispositif, c'est-à-dire... C'est petit à petit, c'est-à-dire que des gens vont négocier dans cet espace que tu as fabriqué, mais toi, tu les mets dans une situation où il va y avoir des rapports d'échelle qui sont tout à fait étonnants. C'est-à-dire tu vas installer des Legos, tu vas installer des objets sur qu'on peut manipuler. Donc ces individus ne vont pas les manipuler, parce qu'effectivement, ce que tu me disais, c'est que c'était des Legos qui servaient pour les écoles d'architecture pour fabriquer des maquettes à une certaine taille, donc une taille importante. Et simultanément, il y avait des Legos pour les enfants. Donc on voyait bien que les enfants jouaient avec les Legos et que les grands ne jouaient pas avec les Legos. C'est-à-dire les grands, ils sont autour de la table, comme on dit chez nous, ils s'empaillent, ils discutent, ils s'agressent, etc. Mais ils ne vont pas jouer comme les enfants avec les Legos. Donc on voit bien que la part de réelle négociation est plutôt sur le terrain de l'enfance. Ailleurs, il y a autre chose. Deuxièmement, c'était aussi... peut-être ça, tu devrais en parler toi, mais c'est ce qui m'a plu aussi, c'était la façon dont tu es arrivé en Suisse en disant « j'ai peut-être quelque chose à faire là » et tu arrives en pleine crise. Donc tu vois en Suisse...
crise de l'intérieur de la salle d'exposition, de la Kunsthalle, non ?
Voilà, c'est ça. Et donc la directrice avec sa déléguée du personnel, qui d'une certaine façon est dans
c'est
la...
Secrétaire,
mais qui dans la hiérarchie, tu corrigeras, mais dans la hiérarchie est quelqu'un qui est au conseil d'administration, donc avec des rapports très ambigus, qui est au-dessus de qui ne l'est pas. Et effectivement, comme tu dis, toi tu as demandé à introduire ta petite caméra, et tout d'un coup, ça s'est effectivement bataillé violemment. Donc la patrie de la Suisse, la neutralité suisse, bienveillante, c'est-à-dire cette Suisse dont on dit que maintenant l'argent n'est plus noir en Suisse, il est gris. Et là, on était au cœur de ça. Donc, tout le dispositif que tu as mis en place sur la maison des négociations était assez fascinant. Après, on pourra y revenir peut-être.
Pour moi, c'était intéressant de réfléchir sur les micros et les macros aussi. Comment est-ce que on échange l'échelle, non? Parce que quand j'arrive en Suisse, c'est le moment que les Suisses, les intellectuels, les artistes proposent à les Israéliens et les Palestiniens d'être médiateurs dans les conflits. Qu'il y a toute l'histoire, on m'a dit, pro-humaniste, neutraliste des Suisses. Ça veut dire que déjà, apparemment, il y a une grande préoccupation pour arranger les conflits. Mais finalement, quand tu arrives dans l'intérieur d'une maison, que c'est d'un groupe qui partage la vie quotidienne, il ne sait pas comment on fait. Alors, comment est-ce qu'on passe très facilement à les choses grandes, mais pas les petites? Et finalement, c'est les choses petites que ça fait aussi, que c'est très important, que tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir parce que tu as une grande préoccupation, parce que tu ne peux pas travailler normalement. Non? Et c'est à partir de ce moment-là que je me pose à réfléchir. Et pour moi, c'était peut-être la perversion de laquelle tu parles, c'était plutôt une idée, je pense, qu'il y a dans mon travail, un peu utopiste, d'essayer à chaque fois que je fais une pièce, d'arriver concevoir la vie un peu mieux. Est-ce qu'on peut arranger les problèmes? Est-ce qu'on peut apprendre à négocier, ça veut dire apprendre à convivre avec l'autre? Est-ce qu'on doit, c'est comme proposer des questions paradoxiques, c'est un paradoxe. Et ça, je l'ai trouvé très intéressant. Finalement, pour moi, c'était une expérience très riche. Très riche parce que je n'ai pas calculé la base politique qu'il y a derrière de ça et que finalement le sujet de la négociation c'est un sujet complètement transversal dans tout, dans notre vie, depuis qu'on est jusqu'à la fin. Et comment est-ce qu'à partir de cette expérience-là, que disons moi, il y a un rapport esthétique pour moi très fort, tout ça, mais finalement ça arrive dans les centres d'un master qui ça passe en Suisse aussi, parce que ça passe en Suisse parce que c'est une coordination de cette université d'Europe et que ma maison de la négociation, que ça devient de la métaphore, de la poétique, en théorie de l'irrationnel que c'est l'art, en théorie, ça devient le sujet du débat très rationnellement. Et c'est aussi comme le paradoxe du paradoxe, non? Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, finalement, parce qu'on travaille maintenant dans l'idée de construire un nouveau maison de la réception pour rester, pour un congrès. Mais je pense qu'il y a un grand chemin ouvert pour rapport à est-ce que, et ça c'est une chose que je vais te poser la question. Est-ce que on doit, la vie, ce n'est pas en forme d'apprendre aussi à négocier. On ne doit pas apprendre à négocier. On doit réfléchir à ça ou non? Ou ce n'est pas une chose qu'on doit réfléchir?
Je te répondrai à ça, mais avant, je voudrais revenir sur ce que tu as dit. C'est-à-dire, c'est peut-être quelque chose qui est typique un peu de ce qui joue un peu dans l'art contemporain, la démarche que tu as eue. On va dire qu'il y a un petit récit de Voltaire qui s'appelle Candide. Mm-hmm. Et bien évidemment, Candide est Candide, mais Voltaire ne l'est pas. Et donc, dans le dispositif que tu as mis en place, tu pourrais avoir la position du Candide, c'est-à-dire mm-hmm. du naïf, celui mm-hmm. qui pose des questions de toute bonne foi, mais en même temps, le dispositif que tu mets en place, c'est exactement comme Voltaire quand il écrit son récit. Mm-hmm. C'est-à-dire, il n'y a aucune illusion à voir. C'est là-dessus, je te dis qu'il y a quand même... C'est ce qu'on dit en espagnol, la picardie. Mm-hmm. Il y a quand même quelque chose derrière qui examine ce qui est en train de se faire.
Hein, parce c'est d'accord.
Un typiquement espagnol, on éprouve beaucoup de sentiments, mais en même temps, on aime bien vivre avec l'idée qu'on est en train d'examiner nos propres sentiments. Mm-hmm. Donc ce rapport double est typique d'un certain type d'état mm-hmm. d'esprit, et on le retrouve dans ton travail. Mm-hmm. Et donc, là où je dis qu'il y a une forme de perversion, c'est que bien évidemment, le dispositif lui-même est chargé aussi de cette naïveté. C'est-à-dire, quand je dis naïveté, c'est-à-dire que là où on considère qu'on n'a plus besoin de poser de questions, toi tu arrives en posant une question relativement basique, très simple, simple ouais. très simple,
et pour mais voir, ça touche beaucoup de choses.
Oui, et pour voir si cette question est encore opportune ou n'est plus opportune. Et finalement, on s'aperçoit à travers la question faussement naïve que tu poses, qui est naïve et en même temps qui n'est pas naïve, on voit bien que cette question est toujours d'actualité. Donc, ce que ça veut dire ça, déjà dans un premier temps, c'est qu'il n'y a aucune question qui est achevée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune pensée qui est achevée, qu'on peut revisiter. Ça, c'est un de mes thèmes. Donc, de ce point de vue-là, ton travail est très classique. On peut revisiter des formes très classiques en leur redonnant une modernité. Simplement, c'est l'angle de vue, l'esthétique, c'est-à-dire la forme par laquelle tu vas représenter ta pensée, qui va introduire un rapport de modernité. Donc, c'est vrai que c'est l'esthétique que tu as donnée au processus qui introduit ce processus dans un rapport de modernité, qui contient aussi tout ce que tu as dit préalablement sur la négociation. C'est important ça, parce que quand cette maison est exportée de Suisse à Barcelone et que ce qui reste à Barcelone de cette maison, c'est un Lego enfantin, c'est-à-dire là, c'est tout d'un coup, on se retrouve avec une maison de poupée. Donc tout d'un coup, il y a une réduction et les gens à Barcelone sont autour. Alors, ça peut être effectivement au premier degré, très simple, c'est parce que là, tu n'avais aucune arrière-pensée. Mais il est bien évident qu'il y a... L'objet lui-même crée une totale arrière-pensée, parce que c'est la Suisse qui exporte sa maison de la négociation en Suisse à Barcelone encore. Par un artiste catalan qui a été là-bas et qui s'est trouvé confronté à la fiction démocratique, hein, c'est-à-dire la totale démocratie virtuelle, hein, c'est-à-dire la falsification, ce que tu disais sur le conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire la patrie de l'argent sale étant propre pour penser, se penser comme négociateur au milieu d'une crise.
C'est encore plus fort parce que les choses qu'on a montrées à Barcelone, finalement, ça a été dans les forums de la culture, dans un congrès international, de comment est-ce qu'on affronte le conflit dans la vie quotidienne. Ça veut dire que c'est, en principe, comme un maximum diffusion ou réflexion sur ce type de sujet. Alors, c'est comme un grand haut-parleur, non, de cette proposition, non, qui encore c'est plus que Barcelone aussi.
Oui, alors... Maintenant, pour revenir à la question que tu me posais, la question que tu poses, est-ce que dans tous les actes de notre vie quotidienne, on est capable de négocier, etc. Je dirais une chose très simple. Tu ne peux négocier que si tu es deux. Si tu es tout seul, tu ne peux pas négocier. Tu ne peux pas négocier avec toi. Si tu peux négocier que tu te lèves plus tôt le matin, mais ça s'arrête à peu près là. Mais tu peux négocier que quand on est deux. Donc, je pense qu'une bonne partie des négociations que tu évoques sont possibles. C'est-à-dire, elles se rattachent à des éléments de vie quotidienne, etc. Mais dès que des négociations vont avoir trait, on va dire, à des systèmes, c'est-à-dire à ce que j'appelle moi des paradigmes, c'est-à-dire les paradigmes qui constituent la société, c'est-à-dire ces valeurs préétablies. À partir du moment où sur ces valeurs préétablies, tu te retrouves tout seul et qu'en face, on n'a pas envie de négocier, donc le discours sur la négociation est faux. Donc je dirais que ce sont deux choses radicalement différentes. Il y a une partie de la négociation qu'on pourrait dire, c'est ce qui rend notre vie supportable avec l'autre. Mais la deuxième partie, qui là, effectivement, je pense qu'il y a un déficit de négociation, parce qu'il y a simplement aussi un déficit de représentation. C'est-à-dire, on vit sur un certain nombre de valeurs qui sont organisées par le système dominant, qui sont par exemple le travail, la marchandise, l'accumulation d'objets, etc., qui font que de l'autre côté, on ne veut pas remettre en cause une seule seconde ce système-là. Donc ça veut dire que sur des tas de sujets essentiels, la négociation ne peut pas exister. Tu peux négocier à partir du moment où tu aurais la possibilité de dire d'autres types de sociétés, d'autres pensées, d'autres valeurs peuvent exister. Mais si en face on te dit il n'existe qu'un seul monde, c'est celui-ci, et vous n'avez pas le choix, ce que vous pouvez négocier c'est en gros la couleur des barreaux. Hein, vous pouvez changer la couleur des barreaux, vous pouvez l'aménager. Vous pouvez par exemple les peindre en rose comme ta maison de la négociation, l'intérieur. Toi. À partir de ce moment-là, cette négociation est fausse. Donc je pense qu'il y a, et ce n'est pas simplement politique, c'est tout bonnement quel est le paradigme général qui gouverne une pensée, un système. Si on l'examine, si on l'accepte, à partir de ce moment-là, on peut tout négocier. Si on le conteste, simplement si on considère qu'un autre système est possible et qu'en face, cette hypothèse n'existe pas, il n'y a plus de négociation possible. En fait, la maison de la négociation prouve centralement qu'on peut tout débattre entre quelques-uns, qu'on peut tout négocier de ce qui nous concerne dans notre petite vie quotidienne, mais qu'on ne peut négocier de rien de ce qui est essentiel à nos vies, c'est-à-dire le mode d'organisation général. C'est-à-dire, si on est traité comme des marchandises, on peut discuter entre nous l'écart, la relation entre deux marchandises qui s'observent, qui s'admirent, qui réciproquement. Mais on ne pourra pas remettre en cause le système général des marchandises, de l'éloge marchand. Je pense que c'est vraiment ta maison de la négociation dans ces rapports d'échelle, ouais. Dans le fait que tout d'un coup tu as du microcosme, du macrocosme, que tu as des transversalités, etc. Ce que ça met à jour, c'est vraiment, moi, ce que j'appelle la fiction démocratique. Fiction démocratique, elle est simplement De la même façon que on a énormément de mal à représenter nos propres corps, nos propres désirs, on a énormément de mal, après Auschwitz, comme je dis, de représenter quelque chose. Je veux dire, en politique, on est dans la même situation. Les gens qui nous représentent ne nous représentent pas. C'est-à-dire qu'il y a un déficit de représentation. Et donc ta petite maison de la négociation, dans ces rapports d'échelle, est au cœur de ce problème de la représentation.
Et comment est-ce que tu vois, par exemple, dans les modèles que tu défends, politique et sociale, l'idée de la négociation?
Elle sera centrale.
Mais comment?
Elle sera centrale, c'est-à-dire, c'est... quand je dis c'est des paradigmes...
Ça veut dire de négocier sans imposer, parce que négocier, ça veut dire pas imposer du tout. Tu acceptes.
Oui, c'est la démocratie directe. C'est-à-dire, je suis un des partisans de la démocratie directe. C'est-à-dire
un peu la maison de la négociation dans un quartier, c'était la démocratie directe. Ça veut dire que tu poses dans le même niveau le président de l'association des voisins avec le chef de je ne sais pas quoi, des voisins, le haut-parleur du Parlement, il est venu. Cette idée, je pense, et ça, c'est les choses plus politiques des maisons, d'arriver à créer un espace de démocratie directe, un espace de liberté aussi. Très fort.
Mais là, la question est encore... c'est toujours, encore une fois, je te dis, tu peux effectivement être dans un dispositif de démocratie directe qui est réel, mais en même temps, on peut contester aussi cet espace de démocratie directe à partir du moment où les intervenants ou les acteurs sont des acteurs qui, eux, n'ont pas ce type de questionnement comme sujet central. Je m'explique. Je suis partisan, par exemple... pour simplifier, de ce qu'on appelle la décroissance. Je pense qu'on est dans un système aberrant. Donc ça veut déjà dire que si on envisage une structure démocratique dans laquelle on négocie, si on envisage des partenaires avec qui on négocie, il est bien évident qu'on pourra discuter avec des individus dans une structure, on va dire, vaguement démocratique, mais si ces individus, par exemple les ampoules qui nous entourent, toutes ces ampoules qui pètent au bout de quelques secondes ou de quelques minutes, alors qu'en fait on pourrait faire des ampoules comme les ampoules de voiture qui durent très très longtemps. Je veux dire, c'est un processus, c'est-à-dire que les objets fabriqués ont un taux d'obsolescence extrêmement important. Donc ça veut dire que pratiquement tout ce qu'on achète c'est fait pour périr très vite, de façon à renouveler le système de l'échange marchand. Ces individus-là, qu'ils soient directeurs de banque, chefs d'entreprise, cadre supérieur, qui soit à l'intérieur de structures de mairie, de députation, c'est-à-dire tout ce système de représentation, ils ne contestent pas l'existence de ce système puisqu'ils pensent que si on le conteste, c'est tout qui s'effondre. Donc tu peux créer effectivement, comme je dis souvent, des réserves pour les bons sauvages, c'est-à-dire tu vas créer des espaces de négociation libres, démocratiques, etc. Mais dans cet espace, l'essentiel ne sera pas remis en cause, c'est-à-dire le modèle même de société. Donc, à l'inverse, si on remet en cause le modèle de société, on peut très très bien imaginer des formes de démocratie directe qui seront des formes, effectivement, où tout sera négocié.
C'est-à-dire... Mais comment est-ce que tu l'imagines, cette démocratie directe? C'est comment l'organisation?
Pour moi, l'organisation, c'est effectivement une organisation qui se trouve dans des comités de quartier, c'est-à-dire... on ne va pas faire un cours d'histoire, mais disons que la représentation ouvrière est achevée, c'est-à-dire la période des syndicats est achevée. C'est-à-dire, pour enlever, enfin, ça c'est plutôt une discussion entre nous.
Non,
mais je veux dire, la représentation ouvrière, par exemple, qu'est-ce qu'il y avait dans la fabrique, que ce soit en Espagne, en France ou ailleurs, le lieu de l'aliénation, c'est-à-dire le lieu où on perdait sa vie à la gagner, était aussi un lieu dans lequel, on va dire, la classe ouvrière trouver une fraternité, une solidarité avec l'espérance d'un changement possible. C'est-à-dire que la prison était simultanément le modèle social dans lequel on pouvait rêver la fin des prisons. Aujourd'hui, avec la liquidation du secteur primaire, l'agriculture secondaire, l'industrie, le développement du tertiaire, on voit bien que les systèmes de représentation ouvrière qui étaient les syndicats ont fait faillite. Donc, un modèle de pensée utopique, qui était par exemple la pensée libertaire, fonctionnait beaucoup sur l'organisation des syndicats reprenant en main l'ensemble de la société. On l'a vu en Espagne avec les collectivisées ouvrières. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, ce qu'il s'agit d'envisager, c'est qu'il faut que ce soit à l'intérieur des quartiers, il faut que ce soit à l'intérieur...
Le maximum, le plus proche possible.
Oui.
L'intérieur de la maison.
L'intérieur de la maison, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut avec les outils que nous avons en notre possession, c'est-à-dire des outils de communication réelle, je veux dire, le principe d'une démocratie totale est possible. C'est-à-dire, au XIXe siècle, on le rêvait, on n'avait aucune idée de la capacité de créer une planète pratiquement comme un village, c'est-à-dire un village planétaire, un vrai village planétaire qui se connecte instantanément, etc. Donc, je pense que c'est effectivement la solution vient dans la capacité d'étendre c'est un peu comme Deleuze, l'idée du rhizome, c'est-à-dire c'est une structure rhizomique avec qui se coordonne, qui discute, qui dialogue, etc. et qui pose des débats en permanence. C'est-à-dire, ce qui manque aujourd'hui, c'est discuter. Le déficit de la population aujourd'hui, c'est un déficit d'information. C'est-à-dire que c'est une saturation d'images, mais peu d'images signifiantes, parce qu'on n'arrive pas à faire le tri, et surtout un déficit de discussion, de vrai débat. C'est-à-dire...
Mais ça a été, la mission de la négociation, ça a été aussi en proposition de créer un espace pour discuter directement, non?
Oui.
Et symboliquement aussi. Ça veut dire, symboliquement, il y a un endroit où tu peux aller discuter sur les choses. Et aussi, comme moi j'ai trouvé très intéressant à moi, on a vu beaucoup d'endroits possibles pour faire cette maison de la négociation, mais finalement j'ai trouvé très intéressant de réhabiliter une ancienne école qui va être tombée, et ça devient aussi une école, c'est une école de dialogue, de la discussion.
Oui, parce qu'il y a toujours un aspect didactique et pédagogique, c'est-à-dire...
Symbolique aussi, hein.
Oui, bon, oui, l'école, oui, mais en plus tu pousses la métaphore quand tu fais tout le travail avec les Lego et avec les enfants. Mais encore une fois, je veux dire, ce que tu fais dans ce que tu as fait comme travail, c'est tu dis le roi est nu. C'est-à-dire, bien sûr, d'un côté, il y a tout ce que tu dis, c'est-à-dire tu crées un espace, entre guillemets, comme on disait avant, libéré, où la parole peut être libre, etc. Mais tu le crées aussi comme un espace à l'intérieur, on va dire, d'un ghetto général. C'est-à-dire que tu es dans un endroit...
Comme une expérience.
Oui. Mais c'est la relation double, c'est-à-dire, de ce point de vue-là, tu te rattaches à une certaine forme d'art sociologique, même si ce n'est pas de l'art sociologique ce que tu fais aujourd'hui. Il y a cette volonté d'expérimenter sur le terrain du social, un peu comme dans les cinémas, tu avais aussi ce genre de pratique. Donc tu t'y rattaches par le côté sentimental, mais en même temps, il y a chez toi quand même, il n'y a pas de cynisme, mais il y a aussi une certaine lucidité. C'est-à-dire que le dispositif que tu mets en place n'est pas utopique. Enfin, ton sujet est utopique, c'est un peu comme quand je parle, moi aussi je suis utopique, hein. C'est-à-dire
je me sens très proche quand tu parles de démocratie directe, tout ça.
Bah, oui.
Je pense que ça va directement dans les idées de mon travail.
Tout à fait, mais c'est pas parce que nous avons en nous un désir, que nous croyons à la réalité de nos désirs aussi, parce qu'on croit à la réalité de nos désirs, c'est pas parce que nous croyons à la réalité de nos désirs que nous sommes naïfs, au point de croire que ça peut arriver comme ça. Donc, on a cette confiance en l'homme qui nous permet de dire que quelque chose est possible, un autre futur est possible, mais simultanément, nous avons la lucidité pour montrer tous les mécanismes qui l'entravent et pour montrer aussi, dans notre époque, tout ce qui parle apparemment de la même chose, mais qui n'en parle pas du tout de la même chose et qui, surtout, le traite comme un ennemi. Je pense que c'est ce travail qui m'intéresse, et j'insiste beaucoup, tant qu'on n'aura pas compris que la crise de l'art moderne est simultanément la crise de la représentation politique, tant qu'on n'aura pas compris que les deux sont strictement la même chose, et que d'une certaine façon c'est aussi une esthétique, une crise de l'esthétique, c'est-à-dire l'esthétique du politique comme l'esthétique de l'art, tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'aura pas avancé beaucoup. Donc, on est quelques-uns à travailler sur ce champ-là, parce qu'une certaine façon, tu te rattaches à ça. C'est-à-dire, en redéfinissant ton travail toujours d'un point de vue esthétique, là, quand je dis esthétique, c'est vraiment quasiment au sens hegelien du terme, hein, c'est-à-dire, c'est vraiment de la pensée en action. Tu travailles dans ce terrain-là, tant qu'on n'aura pas compris que cette réappropriation esthétique de la critique et cette réappropriation esthétique des sujets de représentation, parce que la négociation de ta maison, c'est une représentation. Tu représentes une idée, mais tu le représentes, c'est-à-dire tu le donnes à voir.
C'est une métaphore, plus.
Non, c'est pas qu'une métaphore, parce qu'une métaphore, c'est une volonté de représenter quelque chose. C'est-à-dire, c'est bien sûr une métaphore, on va dire, presque poétique, mais simultanément, c'est aussi une représentation de la chose. Une représentation, il ne faut pas confondre la représentation et le réel. La représentation, c'est comment on peut traduire quasiment de façon universelle, un moment de la pensée. Donc là, dans la crise de la représentation de l'art contemporain, plus généralement, c'est que... C'est pour ça que ton travail m'intéresse aussi, c'est qu'il est rose, c'est-à-dire il a presque... Il n'y a pas simplement une esthétique philosophique, il y a aussi une volonté esthétique quant à la matière utilisée, c'est-à-dire la couleur des peintures, etc. Donc il y a un souci de ce détail-là. Je veux dire, une bonne partie de cette faillite de la représentation, c'est qu'on n'est pas sorti d'Auschwitz, on n'est pas sorti de la Shoah, on n'est pas sorti de la bombe atomique, et donc inévitablement, une partie essentielle, on n'est pas sorti de Beuys, hein, une partie essentielle de l'art contemporain s'est développée sur ce sentiment de ruine. D'achèvement de l'être humain. Je veux dire que là, il commence à y avoir des correctifs qui sont en train de s'opérer. Ce n'est pas que ça soit positif, mais on s'aperçoit à nouveau que sur des sujets ponctuels, factuels, on peut à nouveau représenter. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place des dispositifs qui donnent à voir. Ce qu'on n'a pas du tout, par exemple, à la télévision, on ne donne rien à voir. Hein, on ne donne strictement rien à voir. Là, on donne à voir et on donne à penser. Donc, ce qui commence à être intéressant dans ce genre de travaux, qui à droite et à gauche, c'est qu'à nouveau, on a le sentiment qu'on peut à nouveau représenter quelque chose, le donner à voir, même si tu as tout à fait raison de dire que c'est une métaphore, je ne conteste pas.
Oui, pour moi, c'est très important tout le temps, faire mon pièce le maximum possible dans la réalité, insérer dans la réalité et devenir la réalité. Pour ça, j'essaye d'être, mais dans la réalité, bien sûr, qu'il y a une représentation aussi. C'est difficile, mais j'essaie. Moi, c'était peut-être une chose plus inconsciente qu'inconsciemment, d'être pas seulement. J'effuse un peu la représentation du sol.
Bien sûr.
Que ça, c'est une chose. Moi, je dis tout le temps, je dis biais, c'est une chose qui est déjà trop vue, trop utilisée, et que ça ne nous amène pas à l'expérience aussi physique de l'espace. Parce que finalement, c'est seulement des expériences. Seulement poétique, quelquefois, et qu'on n'arrive pas à entrer dans l'impact réel, complet, concevoir l'homme comme une chose complète, non, comme un paquet.
Mais là, je te rejoins, parce que là, c'est. Par exemple, une partie de l'art conceptuel, ce qui a échoué, c'est un peu comme une partie de la théorie critique, c'est-à-dire, comme je dis souvent, c'est des fruits secs. Et donc, quand tu dis qu'il faut que ça ait de la chair, je veux dire, c'est un sujet qui moi, me préoccupe. Quand j'ai travaillé sur le traité du combat moderne de Kubrick, la question que j'avais, c'est qu'il fallait dire des choses théoriques et en même temps les transcrire avec de la chair. Donc, il fallait que d'une certaine façon, le personnage central, ce ne soit pas simplement Kubrick, mais ce soit aussi moi. Donc, il fallait que ce soit moi qui investisse subjectivement un champ qui est le champ cinématographique de Kubrick pour lui faire dire une réalité. Et en même temps que cette réalité, elle soit habitée par de la chair, c'est-à-dire ça ne doit pas être c'est pas des concepts désincarnés. Il fallait que, d'une certaine façon, et là je te rejoins, ça soit un système métaphorique. C'est-à-dire c'est une métaphore, c'est une paraphrase, et en même temps c'est une représentation, et en même temps c'est une manipulation. Le point où on sera en commun dans ce que tu as fait, dans mon souci, c'est aussi qu'il y a quand même chez nous, et dans la nouvelle génération, à partir des années 50, hein, je veux dire, dans ce champ un peu d'artiste, il y a le détournement, c'est-à-dire la théorie du détournement a fait son chemin. Et donc, on sait très très bien qu'on ne peut pas mettre en place de dispositif sans qu'il y ait une part de manipulation. C'est-à-dire que pour dire le vrai, parfois, il faut manipuler. À l'inverse des gens qui te foutent une image en te disant qu'elle est vraie, alors que tu sais très très bien que selon l'endroit de la caméra, le plan que tu as organisé, le rapport de taille, tu es dans un rapport de vérité ou de mensonge. Donc je pense que ce phénomène de manipulation, c'est-à-dire le fait qu'on sache qu'on doit manipuler des dispositifs, le sait...
Provoquer,
bien sûr, avec un aspect de provocation, c'est évident.
Oui, parce que pour moi, c'est très important, chaque fois que je fais une pièce, les choses plus importantes qu'il passe, c'est qu'une personne rentre dans un endroit, dans un espace, dans une situation. Cette personne, c'est dans la pyramide, c'est le maximum. Après, il y a autour de lui toute une série de choses que ça la donne en information et que ça les provoque en situation. Mais lui, c'est le plus important. Et pour ça, je pense que c'est comme une représentation que lui, il est à l'intérieur de la représentation. Et ça la fait différemment que comme la peinture, non? C'est une représentation extérieure. Toi, tu es à l'intérieur de cette représentation. Je pense, par exemple, quand la science, il a changé conceptuellement beaucoup. Quand il voit un chromosome, par exemple, ou un nucléo, ou je ne sais pas quoi, et quand il s'approche, ça change, ça bouge. Alors, cette chose assez très importante, comment est-ce que toutes les choses, on ne peut pas les vivre sans savoir nous-mêmes à partir de où? Pas très conscience de ça. Ça, je pense que c'est une chose très importante de mon travail. Je ne sais pas si je l'ai
si,
dit.
Très, très bien. Je veux dire, c'est même. On retrouve Einstein, qui est le premier qui nous a dit que l'observateur modifiait les termes de l'expérience.
Oui,
donc, puis je, pour surenchérir sur ce que tu dis, c'est-à-dire ce dont tu parles en disant ça, tu parles de temps. C'est-à-dire une œuvre, un travail, quel qu'il soit provocant, qu'il soit manipulateur, etc., qui soit ce système de transformation de l'expérience par la présence, ce que tu fais et ce que tu mets en place là-dedans, c'est du temps. C'est-à-dire que l'individu qui va être au centre du dispositif que tu as mis en place, tu l'inscris dans une temporalité. C'est-à-dire que c'est, à la limite, ce qu'il voit dans un premier temps ne fait partie. Ça sera quasiment comme un iceberg, que la partie visible d'un travail souterrain qui est une inscription dans le temps, c'est-à-dire une vraie temporalité. C'est-à-dire avec le fait que, qu'est-ce
oui,
que ça veut dire
cinéma.
Bien sûr.
Et ça, c'est une chose très différente que l'art contemporain classique, qu'il est le temps immanent dans l'objet.
Tout à fait.
L'objet, il est extérieur, il est stand-by de tout.
Exactement.
De toute l'énergie là-bas, et tu passes, et c'est tout, tu pars.
Oui.
Mon pied, ça commence, et ça vit seulement, en principe, dans le temps qu'il est à l'intérieur. Oui. Mais après, les conséquences...
Et après, bien sûr. C'est là aussi... je pense que c'est, à mon avis, ce sera un des concepts majeurs du XXIe siècle, c'est les concepts de complexité. C'est-à-dire, et on rejoint la négociation. Hein. Que ce soit pour l'écriture ou que ce soit pour une représentation plastique, tu ne peux plus faire l'économie de la complexité, et surtout, tu ne peux plus faire l'économie... manichéenne entre oui et non binaire. C'est-à-dire, on vit dans un monde, par exemple, qui est un monde informatique, c'est-à-dire un flux virtuel qui fonctionne sur une structure binaire. C'est-à-dire, en gros, on est dirigé par des 0 et des 1. Ce qui, déjà, pour moi, est assez paradoxal. Deuxièmement, qu'est-ce que je veux dire par complexité? Je veux dire que lorsque on construit un projet théorique, lorsqu'on écrit un livre, lorsqu'on produit une installation, tu dois simultanément avoir deux ou trois points de vue dans ta tête qui sont contradictoires, qui sont même opposés, qui sont même ennemis, et peut-être plus encore de points de vue. Et tu dois les mener tous à terme. Et tu dois les rendre vrais l'un pour l'autre. Et tu dois faire que ces différents éclairages d'un même sujet, qui font que ta personnalité, d'une certaine façon, est scindée, avec, je pense que c'est une démarche qui peut être un peu dangereuse psychologiquement, mais je n'en vois pas d'autres. Il faut amener le travail intellectuel qui a présidé à l'élaboration d'une pièce dans sa totalité. C'est-à-dire que tu dois amener les plans de réalité sur lesquels tu as travaillé simultanément à l'intérieur de ton œuvre. C'est ça ce que j'appelle la complexité. Et je pense que le XXIe siècle ne pourra pas faire l'économie de ça. C'est-à-dire on devra travailler sur ce rapport de complexité. C'est-à-dire que la partie visible d'une œuvre sera vraiment une partie très légère par rapport à l'œuvre. Et en même temps, d'une certaine façon, ce qu'il faut réintroduire, c'est quelque chose qui est assez important, qui est presque une forme de transcendance. Il y a une transcendance sans Dieu, c'est le fait que c'est inépuisable. C'est-à-dire qu'une œuvre, actuellement, on ne l'atteint jamais, ça. Mais il doit y avoir une dimension inépuisable. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas s'achever. C'est-à-dire, effectivement, la temporalité ne doit pas être circonscrite à son objet. La temporalité, elle doit être à l'intérieur de l'œuvre et se dérouler de façon permanente. Et je pense que ça demande de la part des créateurs, des artistes modernes, ça leur demande un travail beaucoup plus conséquent peut-être qu'un travail précédent. Mmh. C'est-à-dire que tu dois simultanément, même dans ton travail, faire apparaître des contradictions, les donner à voir.
Parce que là,
bien sûr.
C'est bien complexe aussi, je pense.
Oui, mais en même temps, je veux dire, c'est ce qui fait qu'une bonne partie de ce qui se joue dans la modernité n'est pas intéressant, c'est-à-dire dans la fausse modernité, c'est-à-dire... ce qui nous est contemporain n'est pas nécessairement moderne. Donc c'est toujours intéressant de réexaminer d'une certaine façon Moi, je reste convaincu, et ça aussi c'est un sujet de négociation, je reste convaincu qu'on n'a pas fait encore un vrai travail de réexamen du classicisme. Donc je suis convaincu qu'à l'intérieur même des formes expérimentales, on doit revisiter les formes classiques, parce qu'elles n'ont pas fini de tout dire. Elles n'ont pas fini de tout dire.
Mais je dis, un de la recherche classique, c'est l'esthétique de l'éthique, non? Et oui. Moi, je mets ça pleinement dans cette chose, l'esthétique de l'éthique. Écoute, il y a deux choses que je ne vais pas oublier. Hein? Quand tu parles d'utopie, ça veut dire être utopique, ça veut dire être naïf, penser l'utopie, croire à l'utopie, ça devient un tout petit peu être naïf parce que c'est une utopie.
Ouais, mais en même temps, je sais pas. C'est toi, quand je te disais le rapport de complexité.
Non, mais
rapport de complexité dont je te parlais précédemment, c'est-à-dire il y a une part de naïveté dans l'utopie, mais simultanément il y a une part d'extrême réalisme. C'est-à-dire que de façon assez contradictoire.
On a besoin d'évoluer.
Oui, mais tu as tout, c'est-à-dire tu as le fait.
Non, pas seulement à moi, en général.
En général, oui. Ouais. Puis l'utopie, c'est. Pourquoi est-on artiste? Pourquoi est-on écrivain? Pourquoi est-on révolutionnaire? Etc. Il y a aussi au cœur de ça, je veux dire, pourquoi a-t-on besoin de ce désir utopique? C'est qu'il y a au cœur de soi le sentiment dès l'enfance de ne pas être comme l'autre. C'est-à-dire ce sentiment de ne pas être comme tout le monde, cette volonté de trouver une correspondance avec sa singularité. Je ne connais pas un artiste qui, enfant, n'a pas eu ce sentiment violent, c'est-à-dire de ne pas être, de pas être en correspondance avec ce temps-là. Donc ce malheur du monde que tu as à la naissance, avec effectivement, comme je dis, la base commune pratiquement à toute la création artistique, c'est la mélancolie quand même. C'est de ce point de vue-là aussi que je dis qu'on est au cœur de ce sujet. C'est-à-dire, comme tu le dis, il y a une esthétique de l'éthique, mais qui se double d'une esthétique mélancolique. C'est-à-dire, on n'était pas fait pour ce monde-là. Et donc, je veux dire, dans la pensée utopique, on n'était pas fait pour ce monde-là. Donc, il y a aussi cette espèce de réalisme presque désabusé, avec le sentiment ambivalent que ce n'est pas possible, et en même temps, le sentiment, sans ça, tu ne peux pas vivre, et donc c'est le suicide, qu'il y a quand même une possibilité que ça s'exprime et que ça se réalise. Donc c'est pour ça que tous ces éléments, à mon avis, cohabitent.
Peut-être que c'est en forme d'être très positif, non?
Oui. Quoi?
Très positif. Même quand on croit que les gens qui sont idéalistes et utopiques, c'est des gens très négatifs ou pessimistes. Mais je pense que c'est complètement le contraire.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire, non, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire, c'est les seuls qui, au cœur, je veux dire, d'une certaine forme de désespoir et d'un monde désespérant, arrivent encore à effectivement manifester l'espoir, puis dire qu'il peut y avoir une pensée humaine, une pensée humaniste, une pensée, une éthique qui soit à la base de la relation humaine et pas ce qui existe actuellement, pas cette falsification généralisée. Donc c'est vrai que la mélancolie ne sous-entend pas le pessimisme. C'est-à-dire, parce que sinon tu ne vis pas. C'est-à-dire, elle n'est pas antinomique.
J'ai lu à quelque endroit que la mélancolie, c'est comme avoir peur à les choses nouvelles. Alors tu es mélancolique parce que tu ne veux pas avoir une expérience nouvelle, parce que tu as peur à ce que ça peut passer. Je ne sais pas si ça, c'est vrai ou non, mais ça m'a choqué.
C'est difficile aussi. Parce qu'il y a une part de vrai, c'est-à-dire tout individu a le désir de conserver ce qui lui a été cher. Donc, pour ce qui me concerne, un certain plaisir de la langue, la qualité de certains discours que j'ai entendus dans ma jeunesse et que je n'entends plus. Donc effectivement, on a le sentiment qu'une sorte de barbarie gagne. Donc le tempérament mélancolique aura, dans ce moment-là, tendance à dire « le temps passé était meilleur ». Mais je veux dire, il a toujours existé sous cette forme-là. Donc ce qui est neuf est nécessairement mauvais. Bien sûr, il y a de cela. Mais de l'autre côté, c'est parce qu'il y a ce tempérament mélancolique qui au début dit « le monde n'est pas pour moi » et qui en vieillissant va dire « on est en train de me supprimer ce qu'il y avait de mieux. » C'est quand même à l'intérieur de ça, dans les deux axes. Hein, la personnalité de Debord est typique de cela. Quand il est tout jeune, il veut brûler les musées, il veut détruire toute la culture dominante. Et à la fin de sa vie, il gueule sur le fait que la langue a été saccagée comme elle a été saccagée. Et il dit que les barbares sont descendus dans la ville. Et dans les deux cas, il a raison. Donc on doit vivre avec ça. C'est pour ça que je te dis la complexité, c'est que les deux hypothèses sont vraies. C'est-à-dire...
Moi, je pense que c'était important pour vivre, avoir des tensions. Et avoir des tensions à l'intérieur de notre tête, ces complexités de que tu parles, c'est vraiment le moteur, un des moteurs de la vie.
Ah oui, tout, oui, sur ce point-là, on sera tout à fait d'accord.
Écoute, une chose, qu'est-ce que tu penses de déjà de la maison de la négociation, que les premières choses qu'on fait, c'est négocier. Déjà, on pose en pratique l'idée de négocier et on négocie la maison de la négociation. C'est ça qu'on a fait, avec tout le monde dans le même niveau.
Et qu'est-ce que je pense de quoi là? Je t'interroge.
De négocier.
De négocier la maison de la négociation.
C'est un peu. C'est comme un petit paradoxe, non?
Non, c'est une mise en abîme. C'est comme ta maison de la négociation, c'est une mise en abîme.
Mais qu'est-ce que ça veut
dire? Mise en abîme, c'est une terminologie française. Qu'est-ce que je te dirais? Tu connais la vache qui rit, les boîtes de vache qui rit. Tu as la tête de la vache qui rit, dans l'oreille, tu as la tête, etc. Toi, c'est une mise en abîme, c'est-à-dire, tu vois. Et donc,
c'est comme un télescope, un peu, non?
Oui, c'est ça. C'est un terme assez beau. Puis c'est un terme très beau parce qu'il y a abîme. Hein, tomber dans l'abîme, c'est tomber vraiment dans le trou. Donc une mise en abîme, effectivement, il y a cette espèce, tu sais, quand, ça rappelle un peu quand, dans le moment d'endormissement où tu as l'impression de tomber. Hein, il y a un peu ça. Et je veux dire que négocier la maison de la négociation, c'est une mise en abîme du style de la vache qui rit. Ouais, c'est-à-dire avec, mais en même temps, le côté abîme. C'est-à-dire tu tombes dans quelque chose. Donc la légitimité de ça, il n'y en a aucune. Là, c'est vraiment une esthétique, et c'est une éthique, c'est-à-dire que tu poses un certain nombre de questionnements. C'est-à-dire, en questionnant le questionnement que tu poses déjà toi-même, c'est pas de la redondance, c'est une mise en abîme. Donc, oui, c'est très bien, mais en tant que mise en abîme et en tant qu'esthétique de l'éthique. Mm-hmm. Si c'est pas une esthétique de l'éthique, si c'est juste un mot, enfin, si c'est juste un caprice, là, ça n'a aucun intérêt.
Non, mais tu sais, normalement, je ne crée pas une stratégie. Avec ces pieds, quand j'arrivais, j'ai zéro dans ma tête.
Toi, j'ai bien compris là.
Et alors, je commence intuitivement. Et je pense qu'on a dans la tête comme une cohérence intuitive. Et moi, je suis d'accord. Comment est-ce que je me pose à moi-même des questions très naïves, comme un enfant, ou alors s'il y a un problème comme ça, comment est-ce qu'on peut les solutionner très simplement et essayer à travailler. Et on pose après un peu plus les connaissances, la rationalité, un peu la pensée. Et on arrive à poser d'autres, mais tout le temps, les débuts des projets, c'est une chose complètement intuitive, naïve, et comme un petit enfant qui te pose la question, qu'est-ce que tu penses, papa, je ne sais pas quoi. Mais finalement, j'essaie de répondre à cette question très, très simple, avec le maximum de gens possible. Et moi, je suis d'accord quand tu dis que c'est... Je pense que c'est naïf au début, et ça devient... Et ça m'a fait pour moi très intéressant parce que moi je vais apprendre avec ça. Si je sais qu'est-ce que ça va passer, ça ne m'intéresse pas, je ne le fais pas. Et alors j'apprends avec les autres. Et ça fait que pour moi, chaque fois que je fais une pièce, c'est une vraie expérience, un voyage. C'est un grand voyage que je partage avec les autres. Que je suis très content que maintenant je le partage avec toi. Déjà, je pense que cette pièce est. On parle de ta pièce parce qu'on provoque, on échange l'expérience. Non? Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose.
Non, c'est bien, là, c'était bien.
Je vais te remercier beaucoup,
non,
je trouve très intéressant. Et comme tout le temps, je pense que c'est très intéressant. Merci beaucoup.